Vous le lirez. Merci beaucoup. Donc, on continue ce matin notre étude dans 2 Pierre. On est rendu au chapitre. Ben, t'as-tu dit chapitre 1 tantôt? Chapitre 1, c'est ça, hein, 12 à 21. Ben, je voudrais pas prêcher deux fois le même, là. Parce qu'on va à différentes églises, puis demain, je viens mêler, là, je l'ai donné ici, là-bas, je suis un petit peu perdu des fois. Donc, 2 Pierre, on va lire tout de suite le texte 12 à 21. 2 Pierre 1, 12 à 21. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, donc ici il parle bien sûr de son corps, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, on parle ici de la transfiguration. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors Seigneur, on veut s'arrêter. Je veux partager des pensées que tu as mises sur mon cœur, mais aussi pourquoi Pierre écrit ça, quelle était son intention, son but. Et on veut pas passer à côté des vérités de ta parole. On veut pas mal saisir les messages que ta parole veut nous enseigner. Alors, puisses-tu nous éclairer, puis nous parler aussi, Père, parce qu'on veut... On veut progresser dans cette vie chrétienne. On est dans un combat à chaque jour, mais on veut vivre en nouveauté de vie et se battre. On veut progresser, grandir, ressembler à Jésus toujours plus. Et c'est par ta parole, en connaissant le Fils, en connaissant le Père, qu'on peut progresser. Donc, sois béni et je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, la Bible, peut-on s'y fier? C'est comme un peu le titre que je veux donner à ce message. En fait, c'est une question, mais je pourrais quasiment plus donner un titre affirmatif. La Bible, on peut s'y fier. On a découvert dans une famille un jour, dont un ancêtre avait été un marin, une vieille Bible. Je ne sais pas ça datait de quelle année. Bon, il l'écrit dans le fond, donc je vais vous le lire, mais dans la Bible... On ouvre et il y avait cette inscription dans la première page qui dit ceci. Cette Bible m'a été donnée par M. Rakes à Hereford en 1791. Elle a été ma fidèle compagne durant 53 ans, dont 41 passés en mer. Donc lui, il était sur l'océan puis il avait sa Bible. 41 ans. Pendant ces longues années, j'ai assisté à 45 batailles navales, reçu plusieurs blessures, fait naufrage 3 fois. Une fois, notre bateau a pris feu, Deux fois, le navire sur lequel je me trouvais fut complètement détruit. 15 fois, j'ai eu des fièvres de différentes sortes. Mais toujours, la Bible fut mon soutien et ma consolation. Tout cela est l'exacte vérité et je l'écris de ma propre main. Et c'est intéressant parce que cet homme qui fait ce témoignage-là, il dit deux choses à la fin pour que son témoignage soit plus crédible. Il dit premièrement, tout cela est l'exacte vérité. Et probablement qu'il décide de dire ça parce qu'on s'entend quand on lit ça, exagère-tu le monsieur? 45 batailles, puis 3 naufrages. Puis... Donc, il dit, tout cela est l'exacte vérité. Donc, s'il ajoute ça, c'est probablement qu'il veut un peu faire taire les gens qui auraient tendance à dire, ben voyons donc, t'sais. Voir si tu as tout vécu ça. Mais non, il dit, hey, c'est l'exacte vérité. Puis la deuxième chose qu'il écrit, il dit, je l'écris de ma propre main. Autrement dit, quand il dit, je suis la source directe qui a vécu ces choses-là. Je suis en train de raconter, mon arrière-arrière-grand-père a vécu ça, puis j'ai entendu depuis 3 générations. Non, j'ai vécu, je l'écris de ma propre main. Puis c'est exactement ce que Pierre fait dans le verset qu'on vient de lire ensemble. Il va mentionner 2 choses pour rendre son témoignage encore plus solide. Pas nécessairement les 2 mêmes choses, mais premièrement, il dit « Ce que je vous dis, je l'ai vu de mes yeux. » C'est important ça dans l'Écriture. Parce que là, faut comprendre que c'est une lettre. On l'a dans une Bible avec plein de livres, mais il faut comprendre qu'à l'origine, c'est des papiers qui avaient été envoyés à des gens. C'est un être humain qui a écrit à des personnes précises. Puis dans cette lettre-là, la personne qui écrit, il dit, « Je l'ai vu de mes yeux. » Donc, il dit qu'il l'a vu. Donc, c'est quelque chose qui est important quand on lit dans les Écritures. C'est pas une source qui a entendu parler de... Non, « Je l'ai vu. » Et deuxièmement, il dit, vous pouvez aussi aller voir la parole prophétique qui est inspirée de Dieu. Autrement dit, ce que je vous dis là, il n'y a rien de nouveau. Vous connaissez la Bible, on parle de l'Ancien Testament pour le contexte de Pierre. Le Nouveau Testament, il n'était pas fini d'être rédigé. Donc, vous connaissez l'Ancien Testament, mais il n'a pas dit l'Ancien Testament, mais vous connaissez, allez voir, parce que tout ce que je vous dis, ça a été prophétisé. Je fais juste... vous écrire des choses qu'on vous êtes déjà supposé de connaître. Il y a la prophétie qui prêchait la venue du Messie. Donc, si vous ne croyez pas, ben allez lire, vous allez voir. Donc, 2 choses qui viennent renforcer son témoignage, parce qu'il veut que son témoignage soit solide. Il veut préparer ses auditeurs à faire face aux faux docteurs. Puis ça, on va le voir dans les prochains textes. Les faux docteurs, au chapitre 2, qui ne croient pas au retour de Christ. Puis, on peut les comprendre, parce que, tu sais, quand on parle du christianisme, puis Jésus va revenir sur les nuages, là, c'est pas mal science-fiction, notre affaire. C'est bizarre, là. Mais les gens ne croyaient pas à ça, puis il veut leur montrer, hey, c'est solide, c'est vrai, je l'ai vu. Donc, il veut les préparer. Puis moi, j'essaie de faire la même chose avec mes filles, avec mes enfants. Je leur rappelle que la Bible, elle est fiable. On peut faire confiance à l'Écriture. Peu importe ce qui se passe, ce qui est dit dans le monde, moi, j'ai une Bible que Dieu s'est révélé, puis il dit que c'est la vérité, puis moi, j'y crois, puis on peut faire. Moi, je crois que la Bible, elle est 100% fiable et qu'on peut s'appuyer dessus. Et on va regarder ces 2 choses-là que Pierre mentionne, qui donnent la crédibilité à son témoignage. Les 2 choses qu'on va voir ce matin, c'est simple, j'ai pas 4-5 points, j'ai 2 points. La Bible est fiable, pourquoi? Parce que plusieurs de ses auteurs sont des témoins eux-mêmes de Jésus. Ils ont vu le Seigneur Jésus. Et on va voir ça dans les versets 16 à 18. Puis deuxième chose, la Bible est fiable, pourquoi? Parce qu'elle est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. C'est pas des hommes qui se sont levés un matin pour juste écrire leurs pensées, leur mémoire. Non, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés. Donc, la Bible est fiable, premier point, parce que plusieurs de ses auteurs sont des témoins oculaires. Je dis plusieurs parce qu'il y a certains qui n'ont pas nécessairement vu directement, mais ils ont été en lien avec quelqu'un qui a vu. Donc, c'est pas une source qui est 5 fois plus loin. C'est vrai qu'ils l'ont vu ou qui ont été en contact avec quelqu'un qui l'a vu. Alors, on peut croire à ce que Pierre nous dit parce que lui, il l'a vu de ses propres yeux. quand l'Église réfléchissait, tu sais, la Bible, j'ai un des amis qui était surpris de savoir que la Bible, c'est comme plein de lettres, puis il y a un comité à un moment donné qui a dit, ben voici la Bible, puis ça, ça fait pas partie de la Bible, puis ça non plus, puis il était surpris, parce que lui, il pensait que c'était comme tombé du ciel, tout déjà prêt, peut-être pas relié comme ça, mais il était surpris que c'est comme des hommes qui ont décidé qu'est-ce qui était dans la Bible, qu'est-ce qui l'était pas. Je dis, ben oui, c'est des hommes, mais on peut-tu croire que Dieu a guidé, puis inspiré, puis dirigé pour que ça soit sa parole inspirée qui soit dans la Bible et non toutes sortes d'autres écrits. Mais quand l'Église réfléchissait à ces écrits-là, qu'est-ce qui va faire partie du canon? Bien, un des critères était qu'on devait être capable de retracer le texte qui est écrit, qu'on a retrouvé, à un témoin oculaire qui a vu le ministère de Jésus ou à quelqu'un qui avait été en contact avec le témoin. Si on est à 3 ou 4 sources plus loin, ça passait pas le test. Alors, Pierre a vu le Seigneur Jésus. Et il raconte la transfiguration. Pourquoi il raconte la transfiguration? Puis, ça le dit pas, j'ai pas pu demander. Mais je me suis posé la question, pourquoi il parle pas de la résurrection? Parce qu'il a vu Christ mort, ressuscité. Puis il a vu la transfiguration, puis il choisit dans son épître-là, quand il veut démontrer qu'il l'a vu de ses yeux, de parler de cet événement-là sur la montagne. Puis j'y réfléchissais un peu, puis 2 raisons que j'ai pensées. Bien, premièrement, la transfiguration, c'est vraiment un avant-goût du retour et du règne de Christ. Hein? Et Pierre veut convaincre ceux qui ne croient pas que Jésus va revenir en gloire, que ça va se produire. Je l'ai vu, moi, la gloire de Christ sur cette montagne-là. C'est pas du blabla. Je l'ai vu. Il va revenir dans la gloire. Donc, Pierre a eu cet avant-goût et il veut comme, je pense qu'il veut quelque part convaincre tous ceux qui ne croient pas au retour en gloire que, hey, moi, je l'ai vu. Je le sais qu'il est glorieux, qu'il est le Fils de Dieu. J'ai même entendu la voix et il va revenir en gloire. Puis la deuxième raison, je pense que la transfiguration, c'est une expérience unique pour Pierre et Jean et Jacques, parce qu'ils étaient 3 sur la montagne, vous vous rappelez. C'est vraiment unique, cette expérience-là. Matthieu 17, 2, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder le soleil l'été, là. Ben, même l'hiver, n'importe quand, mais l'été quand il brille. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et c'est quand même une expérience intense. Puis là, j'imaginais, je vais vous faire imaginer 2 choses, 2 événements que j'ai vécu. Ben, un que j'ai vécu, puis là, pas l'autre. J'ai été voir le spectacle de Paul McCartney lors du 400e. Ça fait quand même, ça fait 2016, ça? 2006, 2009, je me souviens même pas, 2008, c'est quoi, là? 2008, hein, c'est ça, 2008, parce que 400 ans, là, ouais. Fait que je suis allé voir le spectacle de Paul McCartney en 2008, puis je pourrais vous donner un deuxième événement. J'ai aussi vu un spectacle privé avec 2 de mes amis dans la villa de Paul McCartney en Écosse, au Royaume-Uni. Paul, il m'a invité personnellement avec 2 de mes amis. Imaginez que j'ai vécu ces 2 choses-là. Si je veux raconter un des 2 événements, lequel vous pensez que je vais raconter? C'est sûr que je vais raconter le deuxième, parce qu'il est unique. J'étais tout seul invité avec 2 de mes amis. Personnellement, j'ai vu dans sa villa, c'est pas vrai, j'ai jamais été invité là, mais vous comprenez-vous l'idée de cette, la gloire que Pierre a vue avec Jean et Jacques? Il dit, waouh, tu sais, je pense que c'est une des raisons pourquoi il a décidé de raconter la transfiguration. Il a vu de ses yeux la majesté de Christ et ça devait être une expérience extraordinaire qu'il a voulu partager aux autres. Puis un jour, on va le vivre. Puis moi, je pense à ce retour-là du Seigneur quand on va le voir, puis on va être transformé comme ça pour devenir tel qu'il est parce que nos corps vont être transformés, parce qu'on va le voir tel qu'il est, puis moi, j'ai vraiment hâte à ce jour-là de voir Jésus dans la gloire. Je ne veux pas diminuer l'expérience de la croix, l'expérience extraordinaire d'avoir vu Christ ressuscité, mais je pense que la transfiguration était unique pour Pierre. Et ensuite, Pierre prend la peine de dire qu'il ne raconte pas des fables. Là, je vous raconte pas des fables. Parce que, écoutez, je vous le dis, ça fait science-fiction, là. Il y a beaucoup de nos histoires chrétiennes qui sonnent vraiment bizarres. Et celle-là, ben Jésus qui arrive, puis son visage brille, puis c'est comme de la lumière. Puis on dirait voir comme un peu Indiana Jones quand ils vont trouver l'arche, puis quand ils rouvrent l'arche, la lumière, puis tu sais, c'est comme un film. Mais il prend la peine de dire, non, c'est pas des fables. Et il faut comprendre que dans le monde grec, il y avait beaucoup d'histoires. Il y avait beaucoup de fables sur des dieux, sur les héros, puis on utilisait ce mot-là. C'est le mot mythos, mais d'où vient notre mot mythe? Mais on peut le traduire comme fable, mythe. Et on utilisait ce mot-là pour parler de ces histoires dans la littérature grecque. C'était des mythes, c'était des fables, c'était des mythos. Et là, Pierre dit, ce n'est pas des mythos que je vous raconte là, comme les autres fables puis les autres histoires qu'on lit. Parce que vous comprenez que si on lit toutes sortes de fables et d'histoires de dieux grecs puis de toutes patentes, puis on lit ce que Pierre qui écrit, ben regarde, il nous écrit une belle petite histoire, une belle petite fable, tu sais. Non, ce n'est pas des fables. Et là, on pourrait se poser la question, comment on fait la différence entre une fable et une histoire vraie? Parce que là, il y en a qui écrivent toutes sortes d'affaires, puis toi, tu m'écris quelque chose qui a l'air d'être toutes sortes d'affaires aussi, parce que c'est un petit peu dur à comprendre puis à croire. Toi, tu dis que c'est pas des fables, mais comment on fait pour voir qu'est-ce qui est pas une fable, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est une légende, qu'est-ce qui est une histoire vraie? Et on va faire un petit test ensemble ce matin. On va faire l'expérience, on va comparer deux histoires. Puis on va voir comment on choisit entre les deux. Bon, on connaît l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était sur cette terre, il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts, guéri des malades. Il est mort, ressuscité. Ses disciples l'ont vu après être ressuscité. Connaissez-vous l'histoire d'Apollonios de Tyane? Okay. Apollonios de Tyane, c'est un philosophe, c'est un prédicateur. Et c'était un thaumaturge. C'est quoi ça? Ben moi non plus, je ne savais pas c'était quoi quand j'ai lu sur... Mais c'est le fait de faire des miracles de guérison. Il faisait des miracles de guérison. Donc ça, c'est Apollonios de Tyane. Il a vécu au 1er siècle. À Tyane, il est né. À Tyane, en Cappadoce. Il est en 16 après Jésus-Christ. Il est mort en 97-98 à Éphèse. On dit de lui qu'il a guéri des personnes. On dit de lui qu'il a exorcisé les démons. Qu'il a ressuscité une jeune fille. Puis on dit qu'il est apparu à certains de ses disciples après sa mort. Trouvez-vous que ça ressemble beaucoup à Jésus? Alors quand tu parles de Jésus, puis à un moment donné, quelqu'un t'arrive et dit, bon, Jésus, c'est pas le seul à avoir fait tout ça. Il y en a d'autres dans l'histoire. Et quelqu'un m'avait dit ça à un moment donné. Il y en a d'autres dans l'histoire qui ont fait comme Jésus. Alors, pourquoi une de ces deux histoires serait plus vraie que l'autre? Pourquoi Jésus, je croirais à son histoire, puis pas Apollonios, puis pourquoi pas l'inverse? Alors, on va passer au test, les deux récits, juste pour comparer, puis se faire une idée. Puis moi, je dis toujours souvent ça aux gens. Je parle de l'Évangile, je dis, ouais, mais l'Évangile, c'est pas le seul livre religieux. Je dis, ben OK, amène-moi n'importe quel autre livre religieux que tu crois être fiable et digne de confiance, amène-le-moi, puis on va passer au test ton livre. On va passer au test, comme on va faire avec les deux histoires-là. Puis jamais personne ne m'a amené de livre à date ou d'autres écrits religieux. Il y en a d'autres, mais personne ne le fait. Donc, on va passer au test, les deux récits, puis les comparer. Bon, on va se faire une idée ensemble. Premièrement, la biographie de ce Apollonios, elle a été écrite 130 ans après sa mort. Donc, on parle d'informations à propos d'un homme qui a été transmise d'une génération, 40 ans, à une autre génération, une autre 40 ans, on est rendu à 80, à une autre génération, on est rendu à 120 ans, puis peut-être à une autre génération à moitié, pour se rendre à 130 ans. Et là, la personne, elle a écrit avec tout ce qu'elle a entendu depuis trois générations, qu'on se dit les histoires. On retrouve dans le texte d'Apollonius beaucoup de déclarations telles que « Il est rapporté que... » Certains disent que cette jeune fille était décédée, la jeune fille qui l'aurait ressuscité. D'autres disent qu'elle était juste malade. Oh, on ne sait plus là finalement si c'est une résurrection. Celui qui a écrit la biographie d'Apollonios, il n'a jamais vu Apollonios. C'est sûr, 130 ans plus tard. Si on regarde les lettres de Pierre, elles ont été écrites à peu près 31 ans après la mort de Jésus. Donc, on comprend, puis c'est logique, plus la date de rédaction est proche des événements, moins il y a de chances pour le développement de légendes. C'est juste logique, c'est juste intelligent de le dire. Ou qu'il y ait des erreurs qui s'ajoutent dans les détails, ou que la mémoire soit confuse. Ça fait 30 ans, là. Ensuite, Pierre ne dit pas « il est rapporté que ». Pierre dit « j'ai vu de mes yeux ». Bon, maintenant, on pourrait juste s'arrêter là et dire « lequel, selon vous, est le plus fiable ?» Tu sais, je mise ma vie et mon éternité sur un de ces deux hommes-là, Jésus ou Apollonios, lequel, déjà, après juste ça, j'ai le goût de suivre plus que l'autre, bien, je pense qu'on peut répondre, mais on va aller un petit peu plus loin. Deuxième chose, les écrits de Pierre, bien, ils ne sont pas les seuls écrits à propos de Jésus. On a quatre évangiles. On a les épîtres de Paul, Jacques, Jean, qui appuient ce que Pierre dit. On a même des non-chrétiens. On a Flavie et Joseph, Pline le Jeune, il y en a plein d'autres qui ont parlé de Jésus, Christos. Il y en a plein, il y en a plusieurs qui ont écrit à propos de Jésus, qui parlent de Jésus. La biographie d'Apollonios, on a une seule source. Troisième chose qu'on pourrait dire, bien, la biographie d'Apollonios, elle a été écrite au 3e siècle. Donc, en 280, en tout cas, au 3e siècle, en Cappadoce, le christianisme, il était déjà présent depuis un bon bout, là. Alors, j'aurais tendance à plus croire la première histoire que la deuxième. Si une des histoires a été copiée sur l'autre, c'est laquelle? C'est la plus tardive, elle qui a été écrite plus tard, qui a été copiée sur elle qui a été écrite en premier. Puis, on sait que les écrits de l'Évangile, c'est au 1er siècle, puis jusqu'au un peu au début du 2e siècle, mais c'est au 1er siècle que ça a été écrit. Et finalement, la biographie d'Apollonius, c'était une commande qui a été faite par une impératrice qui était adepte de cet homme-là, Apollonius, puis elle voulait lui dédier un temple. Alors, il faut comprendre que là, cette femme-là, impératrice, elle passe une commande à quelqu'un, donc elle paye une personne pour écrire. Est-ce que l'auteur aurait pu avoir un motif financier pour embellir l'histoire? Si on compare aux auteurs du Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils avaient gagné les auteurs du Nouveau Testament? Il n'y avait rien de financier dans ça. Il y avait tout à perdre. Puis la majorité ont perdu leur vie. Donc, on peut faire la différence entre deux écrits. Un qui est une fable, puis un qui est une histoire qu'on peut mettre notre confiance à cause de toutes ces raisons-là. Donc, on peut croire ce que Pierre nous dit parce qu'il l'a vu de ses propres yeux. Deuxièmement, on peut croire à ce que Pierre nous dit parce qu'il était prêt à mourir sans jamais changer son témoignage. Et ça, la mort de Pierre, martyr, selon la tradition, c'est quand même une défense supplémentaire pour le christianisme. Ça ne prouve pas que le christianisme est vrai, mais c'est quand même un argument solide. Et Pierre parle de sa mort. Il disait aussi longtemps que je suis dans cette tente, je ne faisais pas du camping, il parle de son corps, il dit « je sais que je la quitterai subitement, donc je vais mourir, ainsi que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître ». Donc, si Pierre ment à propos de la transfiguration et de la résurrection, qu'il mentionne dans sa première lettre, qu'est-ce que ça lui apporte? Tu sais, faut se mettre dans ses souliers, là. Là, l'apôtre Pierre, il écrit une lettre, puis il ment. Il parle de la résurrection dans premier chapitre. Là, il parle de la transfiguration. Qu'est-ce que ça lui apporte de faire ça? Pourquoi inventer ce mensonge? Puis surtout, pourquoi mourir? Pourquoi aller jusqu'à mourir pour protéger ce mensonge-là? Et j'ai demandé à un athée, c'est un petit gars qui travaillait au dépanneur à côté de chez moi, puis à un moment donné, je commence à jaser avec lui. Et j'ai demandé, on a discuté justement de ça, puis j'ai demandé, il m'a répondu, il était prêt à mourir parce qu'il pensait que c'était vrai. Je dis, comment il peut penser que c'est vrai si c'est lui qui l'a écrit? Si c'est lui qui écrit, il sait que c'est un mensonge, c'est lui qui l'a inventé, le mensonge, avec sa gang. Alors, il était plus capable de répondre après ça. Mais il n'avait plus rien à dire. Alors, maintenant, Pierre, il va présenter dans son deuxième argument, il va passer de son argument de témoin oculaire que j'ai vu le Christ dans sa gloire à cause de la transfiguration, à l'argument de la prophétie, elle est inspirée de Dieu. Donc, la Bible, elle est fiable parce qu'elle est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Alors, le point de Pierre dans les versets 19 à 21 est le suivant. Ce que j'ai vu de mes yeux et ce que je vous raconte, c'est un témoignage fiable. Mais la parole prophétique est encore plus certaine parce qu'elle est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Il met la parole prophétique encore plus. Écoutez, vous ne me croyez pas, allez voir la parole prophétique. Autrement dit, Pierre leur dit, si vous ne me croyez pas, allez, vous la connaissez? Allez-y voir, allez-y lire. On dit que les Juifs, je trouvais ça intéressant, les Juifs, peut-être plus les Juifs de l'époque du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, on dit que ces Juifs-là ont toujours préféré la prophétie écrite qu'à la voix venant du ciel. Et j'étais surpris parce que les Juifs ont toujours reçu la voix venant du ciel. Si on pense à Abraham, il a entendu la voix. On pense à Isaac, Jacob. Mais il faut se rappeler que pour les Juifs de l'époque de Jésus, ça fait 400 ans que le ciel est silencieux. Dans le ciel, on parle de Dieu. Ça fait 400 ans parce qu'on sait que cette période-là de 400 ans de silence, Dieu a arrêté de parler. Ils n'ont jamais entendu. Alors, ils préfèrent la prophétie écrite, la parole écrite, qu'ils croient et qu'ils respectent énormément. C'est pour ça que Pierre dit, allez voir dedans. Et Paul n'est pas en train de sous-estimer son témoignage. Mais vu que les Juifs croyaient totalement à cette inspiration-là des prophètes, ils utilisent la parole prophétique comme deuxième argument. Allez voir, allez lire. Parce que la parole prophétique de Dieu a parlé beaucoup à propos de la venue du Messie. Pierre a en tête l'Ancien Testament, mais nous, on peut inclure aussi le Nouveau Testament quand on lit ces versets-là, parce que là, on a toute la révélation. Mais pour eux, il y avait juste l'Ancien Testament. Et le Saint-Esprit a inspiré chaque mot dans l'Écriture. Chaque mot. Et les mystères de Dieu, là. Inspirer chaque mot, tout en conservant la personnalité de chaque auteur. Puis en s'assurant qu'il n'y a aucune erreur qui se glisse dans les écrits. Donc, c'est 100% l'auteur, c'est 100% Dieu. Comment ça se peut, ça? Mais on va laisser ça à Dieu. C'est vraiment ensemble que Dieu, avec l'Esprit et l'auteur, qu'il y a tout soufflé ce qui a été écrit. Mais en même temps, ce n'était pas des hommes qui étaient là à prendre des dictées, une dictée. Hein? Comprenez? C'est pour ça que je dis que c'est 100% les deux. Puis, c'est incompréhensible. Et Pierre, ici, compare la prophétie biblique à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Hein? Pierre leur dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique. La prophétie biblique avait pour but de mettre la lumière sur le Messie à venir. C'est toujours ça que la Bible dans l'Ancien Testament, elle pointe vers, elle met une lumière vers le Messie, vers le Christ qui s'en vient. La parole de Dieu a pour but de faire la même chose aujourd'hui, de mettre la lumière sur le Christ. C'est la parole de Dieu qui éclaire notre monde de ténèbres pour les conduire au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu veut se servir de nous pour éclairer le monde en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est le temps ou jamais de sortir nos lampes et de briller pour le monde. Philippiens 2, il dit, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Et là, je vous pose la question. Quel genre de lumière est-ce que vous êtes? Si on commence à méditer sur le genre de lumière, parce qu'il y a toutes sortes de lumières. Hein? Moi, sur ma voiture que j'ai achetée, je ne sais pas ce qu'il y a, mais la lumière, son pâle là, puis je ne sais pas si c'est le plastique qui est comme sale ou qui est bué, mais quand on est sur l'autoroute, mettons, plus campagne, puis qu'il n'y a pas de spot, puis qu'on est juste dans le noir, je suis obligé de mettre les hautes, sinon je vois rien. Ça éclaire pas. Quel genre de lumière je suis? Tu sais, il y a des petites lumières intermittentes hein, aussi, avec les arbres de Noël. C'est comme une petite lumière qui allume et qui éteint. Qui allume et qui éteint. Est-ce que je suis une lumière intermittente dans ce monde que je brille une petite fois de temps en temps? Puis j'ai trouvé intéressant, il y a les lumières avec des détecteurs de mouvement. C'est que tu brilles pas, mais juste quand le monde est là, oh, là, tout d'un coup, là, il faut que je sois. Mais l'idée d'être une lumière, ben il faut être intègre, il faut être une lumière, même quand on est tout seul, parce que on veut être intègre dans notre vie chrétienne. Pas juste quand il y a un petit quelqu'un qui passe, quand on est à l'église, puis il y a toutes sortes de lumières. Quel genre de lumière est-ce que je suis? Puis je pense au Expo Québec, je suis à Lévis, puis je vois les gros spots de la rive sud qui éclairent dans le ciel. Moi, c'est ce spot-là que je veux être. Je veux qu'on me voit de loin. Je veux être assez fort pour qu'il y ait un rayon qui monte, puis que je sois même connecté avec le Seigneur, puis que les gens me voient de loin. Je veux être une lumière pour le Seigneur. Donc, quel genre de lumière? Puis l'autre question que je me pose, est-ce qu'on s'est habitué aux ténèbres autour de nous? Puis ça, c'est vraiment un danger, frères et sœurs, de s'habituer aux ténèbres. Vous savez quoi? Quand la lumière baisse, la lumière du jour baisse, on s'habitue tranquillement à la noirceur sans s'en rendre compte. Je travaillais pendant l'été dans mon cabanon, dehors. Vous savez, l'été, il fait noir 9h, 9h30, puis je travaille, puis tu sais, peut-être à 8h30, commence un petit peu à faire un petit peu plus sombre, tu sais, 8h30, 9h, puis, mais c'est tranquillement. Puis à un moment donné, je travaillais, puis à un moment donné, j'étais rendu comme dans le noir, puis là, je m'en étais pas rendu compte, je voyais rien, je disais, ben, là, je m'en vais allumer la lumière, mais je m'étais pas rendu compte que la lumière, elle avait baissé. Puis c'est un peu comme ça quand on s'habitue aux ténèbres. C'est graduel, c'est tranquillement. Parce qu'on est tellement entouré des ténèbres partout. Je veux dire, je suis à un clic des ténèbres avec mon ordinateur. J'étais chez nous cette semaine, un soir, puis je regardais mon ordinateur, je dis, Seigneur, je dis, j'étais à un clic. C'est partout. Et puis, on est tellement entouré de ténèbres qu'on peut tranquillement s'habituer à ces ténèbres-là, puis plus se rendre compte trop. Si on s'habitue à la noirceur, on va arrêter de briller. Mais il faut prêcher la bonne nouvelle. Fait qu'il faut être sensible à ça. Marie-Pierre, mon épouse, elle me disait, pour plusieurs, le christianisme, c'est devenu plus un mode de vie qu'une bonne nouvelle à transmettre. C'est le christianisme, c'est pas, je dis, ben moi je lis ma Bible, j'ai une relation avec le Seigneur, puis je vais à l'église, puis aux deux réunions, puis je suis bien heureux. Ben oui, ça fait partie du christianisme, mais il faut pas oublier que le christianisme, c'est aussi et surtout une bonne nouvelle à transmettre. Alors, Pierre compare la prophétie biblique à une lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est ce qu'on doit être. C'est ce que la prophétie faisait, elle brillait pour pointer, pour éclairer la venue de Christ. Et Pierre dit que la prophétie biblique est inspirée par le Saint-Esprit, puis ce n'est pas un objet d'interprétation particulière. Autrement dit, les auteurs ne se sont pas levés un matin pour juste écrire leur journal intime, puis leur semaine, puis leurs activités qu'ils ont eues. Ils ont été inspirés. Ils ont parlé de la part de Dieu. C'est un mystère, parce qu'ils étaient autonomes, ils écrivaient selon leur style, mais Dieu, à travers le Saint-Esprit, les inspirait. Puis on peut certainement faire une application pour nous. On ne doit pas interpréter les Écritures selon ce qui fait notre affaire. Puis malheureusement, c'est vraiment, vraiment populaire. Qu'est-ce que ça dit, toi, ce texte-là? Ben, c'est vrai, on est dans une groupe. Ben, moi, je le vois pas de même. Mais tu sais, je m'en fous comment tu le vois. Tu sais, je veux pas être méchant avec les gens, mais c'est bien correct comment tu le vois. C'est quoi l'auteur avait le goût de dire? C'est quoi l'intention de l'auteur? C'est ça qu'il faut trouver dans les Écritures. Puis on est trop tombé dans, ben moi, ça me fait penser à ça, puis moi, je le vois pas de même, puis moi, je l'interprète pas comme ça. Je pense que non, mais il faut qu'on aille une saine méthode d'interprétation, puis il y en a une. Vous allez dire, ah, c'est sûr, c'est la tienne qui est là. Non, c'est une méthode d'interprétation qui est juste logique. Admettons qu'on la regarderait ensemble, c'est hyper logique, la méthode herméneutique, historique, grammaticale. On va regarder, les auteurs ont utilisé des mots, ont utilisé une grammaire dans une époque, dans un temps. On faut tout analyser ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire. Mais souvent, les gens, il faut juste prendre la Bible, puis même on roule, puis « Oh, Seigneur me parlait ce matin! » Puis je pense qu'il faut faire attention de comment on prend puis on approche les Écritures. Le vrai auteur, c'est le Saint-Esprit. Il avait une intention avec ses textes, il avait un but, et c'est ce but-là qu'on est appelé à chercher et à trouver ensemble, pour voir qu'est-ce que Dieu a à me dire. Puis c'est ça qu'on doit maintenant appliquer dans notre contexte en 2024. Mais le message ne change pas, le but ne change pas. Le sens que l'auteur voulait ne change pas. Ça me fait penser, j'avais vu sur Facebook, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est comme deux personnes sur une plage, puis à terre, il y a un gros, bon, il y a une personne qui est là, puis là, il dit, oh, 6, il y a un gros 6. Puis là, l'autre, il est de l'autre bord, puis il dit 9, parce qu'il voit un 9. Alors, les gens vont dire, ils vont utiliser cette image-là pour dire, voyez-vous, c'est relatif. Pour moi, ça veut dire 6, mais pour lui, ça veut dire 9. La vie est belle. Non, c'est pas ça. L'Écriture, quand on cherche, c'est on va aller trouver c'est qui a fait ça, puis on va lui demander, c'est-tu un 6 que tu as écrit ou c'est un 9? Parce que la personne qui l'a écrit, elle avait un but, elle avait une idée en arrière de la tête. Alors on trouve la personne, puis il va dire, non, j'ai écrit un 6. Bon, mais c'est un 6, fait que toi, tu le regardes en l'envers, viens ici, puis regarde. C'est ça l'idée de chercher l'intention de l'auteur de ce que la Bible à nous dire. Alors, comme conclusion, puisque la parole de Dieu, elle est fiable, bien, on doit la rappeler. On doit la transmettre aux autres. Et pour Pierre, ces vérités sont tellement grandes, sont tellement importantes qu'elles doivent être rappelées, elles doivent être transmises. Il prend la peine d'écrire ces vérités-là, ce qu'il a vu. Et il le dit, hein, il s'en va bientôt dans la présence de Dieu. Mais il veut s'assurer qu'après son départ, on se souvienne toujours de ces vérités-là. Puis c'est Dieu aussi qui voulait s'assurer qu'on se souvienne de ces vérités-là jusqu'à 2024 aujourd'hui, qui dit de toutes ces vérités qu'on a lues ce matin. Et ça nous rappelle que les hommes meurent, parce que Pierre est mort, mais la parole de Dieu demeure. L'homme a essayé de la changer. L'homme a essayé de la tordre. Ils ont essayé de la réinterpréter, ils ont essayé de la détruire, mais en vain, la parole de Dieu demeure. Puis même si on connaît ces vérités-là, il faut se les rappeler. Et quelqu'un, à l'heure de la bonne nouvelle, à un moment donné, qui disait, « Ah, vous autres, vous dites tout le temps la même affaire. » Mais oui, puis on est content, puis on est content d'avoir entendu ce message-là. C'est ça, on dit tout le temps la même affaire, parce que l'Évangile, on le répète, puis on le répète, puis on le répète, puis on le répète. On n'en a pas d'autre message qu'on va répéter toute notre vie, ces vérités-là. C'est Martin Lloyd-Jones, qui est un auteur, un prédicateur, auteur que j'aime beaucoup, qui dit « Le devoir de l'Église et de la prédication ne consiste pas à nous présenter des idées nouvelles et intéressantes, mais plutôt à nous rappeler les vérités fondamentales et éternelles. » Et Pierre connaît très bien l'importance de rappeler ces vérités-là spirituelles. Il sait que même avec la connaissance, il sait qu'avec toutes les bonnes intentions du monde, on peut tomber de haut. Ça a été son cas. Pierre a été sur la montagne. Pierre, il a été haut. Il a vu la transfiguration. Il a été privilégié. La gloire de Christ. Il a entendu la voix de Dieu. mais il a renié quand même le Seigneur trois fois. Alors, il faut se rappeler toujours ces paroles, les mettre dans notre cœur à chaque jour. Donc, la Bible est fiable parce qu'elle nous est rapportée par des gens qui ont été témoins de la puissance de Dieu ou quelqu'un qui a connu un témoin. Elle est fiable aussi parce qu'elle est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit. Et si elle est fiable, croyons-la, vivons-la, puis transmettons-la aux autres. C'est notre mission à tous. On prie, Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, efficace. Et Père, merci pour le témoignage de Pierre qui a raconté ce qu'il a vécu avec toi sur cette montagne. Merci parce qu'il nous rappelle d'aller voir la prophétie, de se fier aux Écritures qui sont inspirées de toi, par le Saint-Esprit. Et Père, qu'on puisse être fidèle dans ce monde, qu'on puisse briller comme des flambeaux, proclamer la parole de vie, et qu'on puisse toujours s'appuyer, puis savoir qu'on peut se fier 100% sur les Écritures, sur ta parole, puisqu'elle est la vérité. Et bénis mes frères et sœurs, l'Assemblée ici, bénis leur témoignage, leur lumière ici à Sainte-Marie, dans les alentours, partout, et puisses-tu amener à la connaissance de la vérité des gens qui sont autour, les gens, les brebis perdues autour. Donc, Seigneur, que tu puisses bénir leur témoignage ici. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.